avant le crépuscule. Ça sera la soirée des deux crépuscules. Vous avez d'abord la lune qui passe devant le soleil, et ça, c'est l'éclipse. Et ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que même si on n'est pas en France sur la ligne de centralité, c'est-à-dire dans l'axe exact de du passage, là où il fera vraiment noir, bah, c'est un peu comme si vous étiez dans une pièce où il y a beaucoup de soleil et vous décidez de tirer les rideaux.
D'accord.
Bah, si vous tirez les rideaux complètement, bah, vous êtes dans le noir, et si vous en laissez un petit peu, c'est un clair-obscur.
On le voit sur la carte, elle passe par l'Espagne, le nord de l'Espagne, en fait, l'éclipse.
Alors voilà, elle démarre en Sibérie, elle passe sur le Groenland, elle frôle l'Islande, et puis descend sur l'Atlantique et se termine sur l'Espagne pour l'ombre. Mais l'ombre, c'est une toute petite largeur. Nous sommes dans la pénombre. Et cette pénombre, ben, va aller de 92 à 99 et des brouettes, si je puis dire, en France. Donc ça veut dire qu'on va avoir un tout petit croissant de soleil juste au-dessus de l'horizon avant que le soleil à nouveau ne disparaisse. Donc c'est un moment très émouvant.
Frédéric a une histoire magnifique, je dirais littéraire, mythologique. C'est le moment où on dévore le soleil. Et donc il y a dans à peu près toutes les civilisations, toutes les cultures, des histoires extraordinaires qui racontent une chose ou son inverse, la fin de la guerre, ou au contraire le début des catastrophes. Donc l'éclipse a toujours fasciné, parce qu'en fait elle vient rompre cette chose qui est absolument centrale pour nous, qui est la rythmicité du jour et de la nuit. Et pendant 2 minutes, cette loi absolue qui gère tout notre univers, c'est-à-dire le rythme des saisons, du travail, nos corps, et bien ce rythme-là est brisé. Et donc c'est un lieu de terreur. Et aujourd'hui, c'est un lieu de plaisir.
Alors, un intérêt poétique, un intérêt pour le grand public, pour se mettre au courant de ce qui se passe dans l'univers, je pense que ça a un gros intérêt. Par contre, scientifiquement, ça a eu de l'intérêt dans le passé. Par exemple, en 1868, Jules Janssen a découvert, grâce à une éclipse de soleil, il a pu faire un spectre, il a découvert un élément nouveau qu'il a appelé hélium, parce que Hélios, c'est le soleil. Et l'hélium était très rare sur la Terre, hein, parce que le gaz s'est évaporé lorsque la formation du système solaire. Par contre, l'hélium, c'est l'élément le plus abondant après l'hydrogène. Et dans le soleil, comme dans toutes les étoiles, c'est 25% de la masse. Donc on a découvert un nouvel élément. Et puis en 1919, par exemple, vous avez la relativité générale d'Einstein qui avait été détectée en 1915. Et en 1919, on n'y croyait pas forcément. Et on s'est aperçu, grâce à l'éclipse, que les étoiles derrière avaient leur rayonnement dévié par la masse du Soleil. Et ça, ça a été le déclic pour dire que Einstein avait raison. Donc vous voyez, tout cela, c'est vraiment une grande utilité jusqu'en 1930, la grande utilité. Parce qu'en 1930, il y a eu Bernard Liot, à l'Observatoire de Paris, qui a découvert le coronographe, un instrument qui permettait justement de faire l'ombre sans même éclipse.
Ah voilà, oui, voilà. D'accord, très bien, donc, ah, oui, c'est ça.
C'est un instrument qui est très délicat, je ne le dirai pas aujourd'hui, mais avec un télescope, on pouvait voir la couronne du Soleil, et aujourd'hui, on a des satellites, par c'est exemple ça. SOHO, le Solar Orbiter, etc., qui se servent d'un coronographe encore dans l'espace, qui permettent de voir la couronne tous les jours, toutes les heures, 24 heures sur 24, 365 jours par an, on voit la couronne du Soleil.
Vous n'avez plus à attendre l'éclipse.
On n'a pas besoin d'attendre l'éclipse.
Alors on va parler
Parker Solar Probe lancé par la NASA le 12 août 2018 pour se rapprocher progressivement de notre étoile. L'engin a resserré son orbite au fil des ans autour du Soleil et finalement l'exploit a eu lieu fin 2024 pour la première fois de l'histoire. Jean-Mathieu, un engin spatial s'est approché de la surface du Soleil à 6 millions de kilomètres précisément. La sonde a pu résister à la chaleur extrême grâce à un bouclier thermique en carbone de 11 cm d'épaisseur. Je parle sous votre contrôle. La sonde a alors fourni des images sans précédent de notre étoile, notamment de la couronne solaire, donc, et de ce qu'on appelle aussi le vent solaire, qui peut parfois perturber nos satellites et les communications sur Terre. Grâce à ces mesures, les scientifiques espèrent désormais mieux prévoir les éruptions et les tempêtes solaires. Il faut savoir aussi que les Européens, de leur côté, ont lancé leur propre sonde. En 2020, le Solar Orbiter, qui a réussi à mesurer la température, notamment du plasma, et à prendre des photos pour la toute première fois des pôles nord et sud du Soleil. Alain Sirou, est-ce que ça y est, le Soleil n'a plus aucun mystère pour les scientifiques actuellement?
Je crois pas.
Il en reste.
Je crois qu'il en reste plein. D'abord, il y a une espèce de fascination parce que on a du mal à imaginer ce qu'est le Soleil. je veux dire, dans la vie courante. Bon, la Lune, on voit bien, hein, oui, la bien Lune, enfin, on voit bien, on voit que c'est un corps et tout. Mais le Soleil, une boule de gaz, 400 fois plus gros que la Lune, c'est pour ça, et la Lune est 400 fois plus près, c'est pour ça qu'il y a une éclipse, hein. Les diamètres apparents sont l'équivalent. Mais on voit qu'il y a une dissonance entre ce que vous dites, c'est-à-dire un corps physique avec des éruptions, centrales nucléaires naturelles en quelque sorte, et en même temps l'image, ce que disait Frédéric, c'est-à-dire cette chaleur, cette lumière, ce Dieu quelque part, ou en tout cas ce à qui on doit la vie, c'est notre étoile.
Oui.
Et on a du mal, on est dans cette dissonance, vous voyez, Soleil, c'est la seule étoile qu'on ne peut pas voir la nuit, mais c'est une étoile,
c'est ça.
Et en même temps on en parle comme des astrophysiciens, alors qu'on la ressent comme des terriens qui, depuis des millénaires, regardant ça en disant « ça marche ».
Alors
c'est l'atmosphère, et c'est ce qu'on en a fait. Ce qui est fascinant, c'est que le Soleil, c'est l'astre de vie dans toutes les civilisations aussi, hein. C'est aussi lui qui nous apporte aussi bien à peu près tout ce qu'on a, la nourriture, l'énergie, la force de vie, et également le pétrole d'ailleurs, toutes les choses qu'on a développées, on mange le Soleil. Il y a cette très bonne formule là, on est des mangeurs de Soleil.
Oui, d'accord.
Et en quelques décennies finalement, on a transformé l'atmosphère au point qu'elle ne nous protège plus, et qu'on a fermé la fenêtre en quelque sorte. Et le Soleil, toutes les ondes infrarouges, tout ça est conservé à l'intérieur et nous détruit à petit feu.
Oui, c'est ça.
Donc c'est cette espèce de paradoxe terrible, c'est à la fois une source de vie et une source de mort potentielle aujourd'hui.
Mais bien sûr, c'est ça.
Alors les Français vont avoir les yeux levés vers le ciel mercredi soir, et ça a déjà été le cas ce week-end, avec notamment la nuit des étoiles. Ils ont pu apercevoir des planètes, des constellations. L'astronomie fascine de plus en plus. Françoise Combes, est-ce que vous comparez votre discipline, par exemple, à de l'archéologie? Parce que l'idée, c'est quand même qu'on voit en fait le passé quand on regarde le ciel.
Exactement. Alors la nuit des étoiles, vous êtes en parler, c'est surtout les étoiles filantes, parce qu'il y a le Perséide qui sont là, qui sont un reste de comètes, hein, qu'on traverse tous les mois d'août. En fait, c'est vrai que vous parlez d'archéologie. En effet, lorsqu'on regarde loin dans l'univers avec nos télescopes, on remonte le temps. Alors fatalement, pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière est 300 000 km par seconde. Ça paraît très vite. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on appuie sur le bouton de la lumière, ça vient instantanément. Mais pour les échelles de l'univers, qui sont, lorsqu'il y a des galaxies à 12 milliards d'années-lumière, par exemple, eh bien, la lumière met 12 milliards d'années à nous parvenir. Donc on la voit telle qu'elle était il y a 12 milliards d'années. Donc on fait vraiment de l'archéologie. On remonte le temps et on s'aperçoit comment elles sont nées. C'est-à-dire qu'on remonte le temps. À chaque période, on voit des galaxies qui naissent, des galaxies qui évoluent, puis des galaxies qui meurent. On peut remonter tout le temps. Et donc, c'est ça, l'archéologie. Et on remonte aujourd'hui jusqu'au Big Bang. On arrive à savoir, justement, d'où nous venons et comment tout ça est né. Et
avec cette autre moitié de la journée qui s'appelle la nuit, nous vivons, depuis l'invention de la lumière artificielle, dans nos maisons, dans nos villes, en éclairant la nuit. Et nous avons perdu le lien direct avec les étoiles. Plus personne ne connaît vraiment beaucoup les constellations, la Voie lactée, ne se repère comme on le faisait autrefois, où il n'y avait pas de lumière. On se mettait autour d'un feu, on racontait des histoires, les mythes circulaient. C'était sous le ciel.
Et on a perdu... ça que viennent chercher finalement tous ces gens qui viennent à la nuit des étoiles.
Je pense.
Vous pensez?
Je pense que c'est ce lien avec le cosmique. Nous vivons sur une planète qui est fragile. Enfin, nous sommes fragiles sur cette planète, plus exactement. Et nous devons la découvrir pour la respecter. Ouais. Et je crois que c'est en prenant conscience avec, justement, ce fait que tout le reste est loin, inaccessible, froid. Françoise parle de millions, de milliards d'années. Nous sommes tout petits. Et je veux dire, c'est cette révolution copernicienne qui n'a pas encore eu lieu, de notre prise de conscience de ce que nous sommes sur une planète où, si nous voulons continuer à exister, il va falloir penser cosmique.
Mais justement, fort qui nous vient des étoiles, qui est le mot désir. Désir, en fait, désidératé, c'est le moment où on manque de l'astre. Considérer, c'est regarder un astre, et désidérer, c'est l'attendre.
Ah oui.
Donc le mot désir vient des étoiles, ce qui est quand même une façon de rappeler à quel point on a toujours désiré cet ailleurs. Et ce qui me frappe, c'est que l'histoire de notre rapport au ciel est une histoire de projection. On a regardé le ciel, comme le rappelait Alain, on a projeté en fait dans le ciel des constellations qui étaient nos propres désirs, qui étaient à l'époque de l'Antiquité, des animaux, des bêtes. Et puis quand on a découvert l'autre partie de la Terre, qu'on est allé jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, on a nommé les constellations microscope, télescope. Donc c'est assez marrant. On a un ciel qui est à moitié fait de mythologie animale et de l'autre de nos mythologies modernes. En tout cas, ce ciel-là, on le regarde de moins en moins. Ces constellations, on les regarde de moins en moins, alors qu'elles étaient les étoiles fixes de l'astronomie ancienne, par opposition aux planètes qui étaient les astres errants. Donc là, on revient à cette contemplation comme si on s'était coupé de cette nature, cette autre partie de la nature, comme disait Alain.
Ça va même présenter Mars comme une planète B, un refuge une fois que la Terre sera complètement abîmée. Mais pourquoi pas ?
C'est un peu désespérant.
Ça vous désespère?
Oui, ça me désespère. Je pense que quand on a discuté, enfin moi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'hommes qui ont marché sur la Lune, ils me disaient mais c'est incroyable, quand on était sur la Lune, c'est beau, hein, c'est pas ça, mais c'est noir, c'est vide, c'est froid. C'est et on regarde une petite boule dans le ciel bleu et on se dit mais c'est là où sont nos amis, nos familles, le restaurant qu'on aime, etc. Et on voit bien qu'on ne peut pas terraformer, changer une planète pour la transformer en nos désirs, d'autant plus que nous-mêmes, nous devons nous occuper de notre propre planète. Donc je pense qu'il y croit, ça c'est sûr. C'est certain que Mars est une destination possible dans le système solaire. Il n'y a pas d'urgence. Mais surtout, aujourd'hui, notre point focal, c'est la Terre. Et je crois que l'occasion de l'éclipse, et pour rappeler l'étymologie d'éclipse, éclipse en grec, ça veut dire défaillance. Il y a une défaillance du ciel.
D'accord. Oui.
Eh bien, je pense que Elon Musk est un peu défaillant dans sa compréhension des choses.
François, pas question, on est sur Mars. On a envoyé des robots. Il y a énormément de robots qui sont en train de rouler, des rovers qui sont en train de rouler sur Mars. Et c'est ça, la connaissance. On a envie de connaître toutes les planètes du système solaire. Et donc, c'est facile d'envoyer un robot parce qu'il n'y a pas de vie à détruire. Je pense que la planète Mars n'est pas habitable. On le sait maintenant. Les robots qu'on envoie, on peut leur envoyer des signaux, leur demander de creuser ici, nous donnent la composition de la planète, ils nous disent exactement ce qu'il en est, les orages, etc. On connaît tout ça. Mais on n'a pas besoin d'envoyer des hommes parce que ça va prendre énormément de temps. Ils vont recevoir beaucoup de rayons cosmiques qui vont leur donner le cancer, etc. Et alors, au-delà, il n'est pas question. Parce qu'on a en effet découvert beaucoup d'exoplanètes, des planètes qu'il y a en dehors du système solaire. On en a 7000 aujourd'hui connues. Mais on sait que dans la Voie lactée, notre propre galaxie, il y a 300 milliards d'étoiles et donc il y a encore plus d'étoiles, encore plus de planètes.
Ouais, c'est ça.
Chaque étoile peut avoir 8 planètes.
Alors justement,
la fiction a beaucoup, beaucoup joué là-dessus et tous les hommes dont on parle là, les Musk et autres, sont nourris de science-fiction. D'ailleurs, quand on regarde le design de leurs fusées, le design de leur station spatiale, on est complètement dans les années 70-80. C'est des petits enfants qui n'ont pas grandi. Et cette histoire de plan B, c'est un énorme mensonge.
C'est-à-dire mensonge, que... vous dites, oui.
Ah, mais mensonge, absolu. Mais c'est ce que disent mes collègues. Et il faut dire les mots. C'est un mensonge parce que c'est un mensonge dangereux. C'est un mensonge qui achète du temps, qui permet aux ultra-riches de faire croire à l'humanité qu'on a une voie de secours. Mais c'est une voie de secours privatisée. Les 8 milliards resteront sur Terre. Ouais. Donc voilà, c'est un mensonge et c'est du cynisme. Donc c'est extrêmement grave et je trouve ça vraiment important d'attaquer frontalement ce genre d'argumentation qui sont non seulement fallacieuses, mais économiquement intenables, historiquement fausses, scientifiquement ridicules.
Alors on va parler...
On a tous vu hein, les merveilleuses images que l'instrument nous a livrées depuis. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Alain Sirou, dans ce que James Webb nous a révélé?
Ah, les premières images du fin fond de l'univers, ou en tout cas du début de l'univers, avec des guillemets, je rejoins tout à fait ce que dit Françoise Combes sur le sujet, c'est-à-dire on attendait avec une impatience extrême que ce télescope qui a mis 10 ans, plus de 10 ans à être construit, qui a coûté vraiment très très cher, voit en infrarouge, en tout cas, les objets les plus lointains. Je laisserai Françoise parler parce que c'est quand même sa spécialité, mais voir ça arriver et se dire que c'était quelques centaines de millions ou les premiers milliards du début de l'univers, c'est une émotion extraordinaire. Personne n'avait jamais vu ça avant nous.
C'est ça, Françoise. Le
télescope spatial Hubble,
oui.
Qui était surtout dans l'optique et l'infrarouge. Et donc, on n'était pas allé jusqu'au bout, jusqu'au Big Bang. On le voyait très mal. On le voyait un tout petit peu, mais très mal. On pensait qu'il n'y avait pas de grandes galaxies très tôt dans l'univers. Et puis là, comme vous le savez, il y a l'expansion de l'univers rougit toute la lumière. Donc, pour aller très loin, il fallait passer dans l'infrarouge. l'infrarouge propre et lointain. C'est ce que fait le James Webb. Il fait ce que fait Hubble, mais à l'air dans un autre bande d'optique, c'est l'infrarouge. Et donc à ce moment-là, il nous dévoile l'univers qu'il y a dans le premier milliard d'années. Donc à 200 millions d'années, on a vu des galaxies très grosses qu'on ne s'y attendait pas, en fait. Oui. Hein. On pensait que, par exemple, les petits trous noirs qu'il y a au centre de chaque galaxie devenaient plus ou moins gros en fusionnant. Et là, en fait, on en a vu de très gros trous noirs, de très grosses galaxies dès le début de l'univers.
Ils sont très